quand les bouddhas, dharma et sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits, des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Nous sommes ce soir, samedi soir, et le samedi soir est le soir d'un moment d'échange, de partage, à partir de questions, de remarques. Donc, nous allons ce soir procéder suivant ce modèle. Il y a différentes questions qui sont arrivées et qui étaient restées aussi en suspens de la semaine dernière. Il y aura aussi, si vous le voulez, des questions que vous souhaiteriez amener, vous qui êtes ici présent. Je vous propose que l'on alterne et que l'on commence par une des questions de nos... comment on dit ? De nos internautes, voilà.
Internautes ou les personnes qui mettent des questions anonymes dans la boîte.
Ou des questions anonymes, mais ou nominales, c'est pas nécessaire qu'elles soient anonymes. Russell, s'il vous plaît. Très bien. Et bien justement, si vous avez des questions dans le cadre de cette introduction à la voix du Bouddha, ce sera le moment.
Et également un week-end d'introduction à la méditation conduit par Lama Tarchin.
Et un week-end d'introduction à la méditation conduit par Lama Tarchin qui n'est pas parmi nous.
C'était pas sa volonté.
Bon, je sais que ce soir on a la concurrence.
Non,
j'ai rien dit.
Non, pas...
Et la voie du Bouddha et la voie de la méditation sont-elles deux choses différentes? Ce serait déjà une bonne question, mais. Dites-nous déjà ce qui était resté en suspens, s'il vous plaît.
Pourquoi les Tibétains ont-ils créé le tibétain au lieu de garder les textes en sanskrit pour les rituels ?
Ce n'est pas très exact de dire que les Tibétains ont créé le tibétain. Le tibétain est... une langue qui existait avant l'introduction du Dharma au Tibet. Mais les Tibétains, ou un certain Tenmi Sambhota en particulier, a mis en forme un alphabet qui a transformé une langue orale en une langue écrite, qui a servi aux traductions du sanskrit en tibétain. Donc, la question, c'est pourquoi le dharma est-il traduit? Pourquoi le dharma a-t-il été traduit du sanskrit en tibétain, du tibétain en langue occidentale, ou pourquoi a-t-il été traduit du sanskrit ou du pali ou du magadhi, la langue originelle que parlait le Bouddha, et vraisemblablement le magadhi, ce qui n'est pas très précis, c'est une sorte de sanskrit pali. Pourquoi les paroles du Bouddha ont-elles été traduites dans la langue des personnes qui recevaient le dharma, que ce soit en tibétain, que ce soit en chinois, que ce soit en Sri Lankais, que ce soit en laotien, en cambodgien, en vietnamien, etc., etc., et aujourd'hui en langue occidentale. Donc, pourquoi traduire le dharma? C'est ça la question. Pourquoi parce que le dharma, dans ce qu'il a d'essentiel, est une expérience. Et une expérience qui se découvre dans notre vécu, et une expérience qui se vit dans notre vie quotidienne. Et la découverte de cette expérience, la transmission de sa pratique, avec tout ce que cela peut avoir aussi de subtil, est quelque chose qui ne peut véritablement bien se faire que dans sa langue maternelle. Dans sa langue maternelle, où si l'on est polyglotte, ou que l'on a plusieurs langues maternelles, dans la langue dans laquelle on pense. Si on pense en plusieurs langues, ça peut être plusieurs langues. Mais disons pour faire simple, dans sa langue maternelle, c'est-à-dire celle en laquelle est structurée notre pensée et celle dans laquelle est aussi naturellement structurée notre parole. Parole et pensée sont largement synonymes. Alors, il y a une pensée qui n'est pas uniquement une pensée verbale, une pensée discursive, d'un discours. Mais la pensée discursive, c'est-à-dire la parole intérieure et la pensée dans laquelle on se fait des questions et des réponses, où l'on réfléchit en argumentant, alors, si l'on est francophone, disons français, cette pensée discursive est dominante, et c'est dans la nous sommes des êtres de parole. Nous sommes structurés dans notre discours, dans notre parole. Alors, c'est une notion bouddhiste, c'est une notion moderne aussi, être un parler-être, comme on dit certains. Et la relation entre la parole, la pensée et l'être est quelque chose de très important et tout à fait central. Donc, c'est dans notre mental discursif, dans notre langue maternelle, dans notre langue en laquelle on pense, que se trouve structurée notre intelligence et en même temps aussi notre confusion et nos illusions. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir dénouer les illusions et tout le jeu aussi même de l'illusion conceptuelle et de l'illusion de la parole dans notre langue maternelle, dans notre langue, la langue que l'on est. Et c'est assez trivial aussi que de remarquer qu'il y a, en fonction des langues, des mentalités et des façons de faire, des cultures et des façons... donc, pourquoi le dharma est-il traduit? Parce qu'il est important que l'expérience qu'il véhicule puisse se comprendre et être vécue dans l'expérience intime de chacun, telle qu'elle est susceptible de se vivre en sa langue maternelle. Et c'est dans sa langue maternelle que l'on peut vraiment bien comprendre, et ce qui est tout l'essentiel, c'est pour ça qu'il est important de comprendre le dharma et autant que faire se peut le pratiquer dans sa langue maternelle. Donc, ça ne veut pas dire, les Tibétains, reprenant le cas des Tibétains, ont traduit tout le dharma du sanskrit en tibétain, ils ont néanmoins gardé certaines formules, les mantras, qui sont des paroles efficientes, mais des paroles, des sons qui ont une fonction plus symbolique, opérative, que de par le sens proprement dit qu'elles véhiculent. Om Mani Padme Hum, le mantra de Chenrezig, c'est du sanskrit. Si on le traduit, Om Joyau du Lotus Hum, ce serait. Il y a un sens, ce qu'est le joyau de l'amour-compassion dans le lotus de la sagesse et de la compréhension. Mais chaque lettre aussi a un sens symbolique en rapport avec les différents états de conscience, etc. Ça n'est pas traduisible. Donc, ce genre de formules sont restées dans l'original sanskrit, mais autrement, les pratiques ou les instructions qui sont des choses à comprendre, eh bien, on les comprend mieux, assurément, si c'est en français que si c'est en tibétain. Si je me mettais à vous parler en tibétain, vous seriez bien ennuyé. Donc, c'est la raison pour laquelle le dharma a toujours été traduit dans la langue des pays dans lesquels il s'est développé, et c'est la raison pour laquelle il a été d'Inde au Tibet et pour laquelle il l'est aujourd'hui du Tibet en France ou en d'autres pays occidentaux ou ailleurs. Alors, on avait dit qu'on alternerait. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez aborder? Vous qui êtes dans ces sessions d'introduction.
Donc je vous invite à prendre le bâton de parole pour poser votre question, car nous sommes suivis aussi en direct sur Internet et en même temps pour enregistrer vos questions, pour avoir une réponse de Rinpoche, c'est plus pratique.
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si vous pouviez dire quelques mots au sujet de l'intention, de sa place dans la pleine présence et l'intention par rapport à la volonté.
De l'intention, oui. La place de l'intention dans la pleine présence et l'intention et la volonté. Non. C'est une question importante. Il y a beaucoup de volonté. Un auteur, un philosophe qui s'est beaucoup inspiré du bouddhisme, Schopenhauer, a développé toute une vision de la volonté qu'il a fait être une sorte de karma, en quelque sorte. Il y aurait beaucoup d'aspects à envisager, mais l'intention, Chönam Tamche Dunpeitsena Raptune, c'est du tibétain, ce qui signifie toute chose repose sur l'intention. Et dans l'intention, intendere, tendre vers. L'intention, c'est ce qui nous fait tendre vers. ce que l'on fait, quoi que l'on fasse, pratiquer la pleine présence, ou aller à la fête de la musique, ou quoi que l'on fasse, dépend d'une intention qui est proche d'une motivation. Motivation, intention. L'intention vient de la motivation, où ce sont des quasi synonymes. Et si l'on dit que toute chose dépend d'une intention, ça va encore plus loin. L'intention a un certain pouvoir, on pourrait presque dire créateur, ou inducteur, ou producteur. Et c'est en ayant l'intention de s'éveiller que l'on peut s'éveiller. Dans un exemple plus trivial, c'est en ayant l'intention de devenir riche qu'on peut devenir riche. Ou c'est en ayant l'intention d'apprendre les mathématiques que l'on peut apprendre les mathématiques. Donc, l'intention part de la motivation, d'un souhait, et nous oriente vers... l'intention peut ensuite devenir une volonté. La volonté, c'est la façon de suivre et d'appliquer une intention. Tous ces termes peuvent avoir beaucoup d'acceptions, mais dans la question que vous posez, la place de l'intention et de la volonté. Restons à l'intention, la motivation-intention dans la pratique de la pleine présence. Mais il faut d'abord avoir la motivation d'entrer dans la pratique, de commencer la pratique, de commencer son entraînement. Quoi que l'on fasse, commence par une intention. Même dans une démarche expérimentale scientifique, il faut avoir l'intention de faire une expérience ou l'intention de tester la validité d'une hypothèse par l'expérimentation pour entrer dans l'expérience. Pour la pratique, c'est pareil. Et l'intention... la motivation peut venir d'une certaine compréhension ou peut venir aussi d'une inspiration ou venir d'une intuition, quelque chose qui nous parle ou quelque chose qui, même si on ne le comprend pas pleinement, nous... à un écho en nous qui nous semble juste. Et à ce moment-là, de là vient une motivation pour aller voir ce dont il s'agit et l'intention qui permet de l'exploration, en quelque sorte. Donc ça, c'est pour motivation-intention. La volonté, le terme est un petit peu plus délicat, la volonté est... il y aurait beaucoup de volontés qui pourraient être distinguées. Il est nécessaire dans la pratique du dharma, de la pleine présence ou du dharma en général, d'avoir une forte volonté, une forte détermination, une forte résolution d'être résolu, courageux, motivé et déterminé, une force intérieure qui nous permettent de véritablement entrer dans la pratique, entrer dans la quête, entrer dans l'aventure. On a besoin de cette force intérieure, on appelle ça le courage aussi, le courage, la diligence, dans le sens aussi d'une résolution. Après, dans la pratique proprement dite de la pleine présence, il y a, au moment et dans la pratique même, une dimension de non-vouloir. Alors, ça peut sembler paradoxal et contradictoire, mais... le non-vouloir étant l'absence d'intention, la non-intentionnalité, qui est l'une des trois portes de la libération au niveau le plus profond. Les trois portes de la libération sont la vacuité, absence de caractéristiques et non-intention. Mais la non-intention ici, ou l'absence de volonté, ou la non-volonté, comme on dit aussi, et le fait de ne pas être dans une pulsion de l'ego qui veuille ceci ou qui ne veuille pas cela. Et dans ce moment essentiel de la pratique, il y a une forme de « let it be so », « laisser être tel que c'est ». Et... un lâcher de la volonté pour pouvoir simplement sentir sans mental. La volonté se construit dans le mental et dans ses raisonnements pour pouvoir simplement sentir ce qui est, tel que c'est, dans l'instant présent, sans intention particulière, sans jugement, tel quel, ainsi. Et là, il y a les deux ne sont pas contradictoires. Et il y a d'abord et toujours besoin d'une certaine intention et d'une certaine volonté, ne serait-ce que la volonté d'expérimenter l'au-delà de la volonté égoïste et de par là même se mettre en situation de pouvoir la vivre, la découvrir, l'expérimenter.
J'ai une question, effectivement.
Eugène, s'il vous plaît.
Donc de Valérie, de Saint-Pierre de Curtille, qui vous demande quelle différence y a-t-il entre l'ego, l'esprit et la conscience, si différence il y a.
Bonsoir Valérie. Quelle différence y a-t-il entre l'ego, la conscience et l'esprit? Alors, une première réponse simple et caricaturale serait, eh ben, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. L'ego se structure et existe dans la conscience, et ce que l'on nomme conscience, c'est aussi simplement notre esprit. Ah. C'est une bonne réponse. Alors, ça peut poser des problèmes, et c'est très intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a comme problème dans une telle formulation. Si l'on élabore un tout petit peu plus, esprit est le terme le plus vague qui soit. Il y a l'esprit pur, il y a l'esprit impur, il y a l'esprit duel, il y a l'esprit non-dualiste, il y a l'esprit éveillé, l'esprit illusionné. Esprit, es-tu là ? Si tu es là, frappe une fois. Si tu n'es pas là, frappe deux fois. Il y a toutes sortes d'esprits. Donc, si, quand on emploie le terme esprit, il est toujours pertinent de s'interroger, mais de quel esprit s'agit-il ? De quel esprit parlez-vous ? Que recouvre ce terme ? Ça peut être tout le panel, toute la gamme de ce que je viens d'exposer. Conscience, la conscience aussi est un terme qui peut avoir beaucoup de sens. En votre âme et conscience, la conscience individuelle, certains parleraient même de la conscience cosmique, ou la conscience illusionnée, de la conscience pure. Et on retrouve avec conscience en partie le problème qu'il y a avec esprit. D'un point de vue un petit peu plus précis, alors, dans le dharma, il y a une... dharma signifie l'enseignement de la réalité, la présentation de la réalité, une sorte de phénoménologie libératrice. Pour éviter ce genre de problème, on utilise les mots avec un sens bien défini. La conscience est le processus cognitif. La conscience est un processus cognitif dans lequel un observateur, sujet, prend conscience ou conscientise un objet. Il y a une prise de conscience, il y a une saisie de la conscience, une saisie cognitive, une saisie conceptuelle, une saisie représentationniste, ça peut avoir différents noms, dans lesquels on définit des choses en leur mettant des étiquettes, des formes et des noms. On appréhende dans le réel des éléments comme étant signifiants, d'abord des formes et des noms. Et cette étiquette, le processus que j'ai décrit là est quelquefois dit comme un processus de cartographie. On cartographie le terrain. Et la conscience est ce processus de cartographie qui nous fait identifier des zones comme étant signifiantes et l'on met un nom dessus. Exemple, là, il y a une espèce de forme plus ou moins ronde et que l'on peut repérer comme étant signifiante et mettre dessus l'étiquette tambour. Donc, la conscience et ce processus cognitif de saisie et de projection dans lequel se structure de façon interdépendante et en détermination réciproque, observateur et observé. Donc ça, c'est la conscience du point de vue du dharma. L'ego, alors, il y a beaucoup de définitions. C'est-à-dire, il y a l'ego en psychologie, il y a le moi, il y a l'ego, le soi. Là aussi. D'une façon simple, dans le dharma, on entend par ego une entité. Alors, qu'est-ce qu'une entité ? Une entité, c'est quelque chose qui est un, quelque chose qui a une existence une, indépendante, qui est une entité indépendante. Et c'est cela que l'on nomme ego. Et l'on distingue l'ego ou le soi. Dans la terminologie du dharma, ce sont des synonymes. Le soi personnel et le soi ou ego. Alors, l'ego personnel ou l'ego soi des choses. Alors, le soi personnel ou l'ego personnel, c'est le sentiment que l'on a de moi en tant que quelqu'un ou en tant que quelque chose de stable, d'autonome et d'indépendant. C'est ce que l'on nomme l'ego personnel. Cette impression que l'on a tous d'être quelqu'un ou une personne qui est autonome, indépendante et une. Le point important est surtout sur l'indépendance, de ne pas être dépendant de choses autres et d'avoir cette qualité d'une entité autosuffisante. Le soi des phénomènes, de toutes choses, et de percevoir les choses, là aussi, comme étant des entités ayant une réalité indépendante. Une table, une voiture, ou n'importe quoi. Et les choses ne sont pas des entités indépendantes. Une voiture, alors dans un exemple célèbre, qui est celui du char, on prend un char et on... Bon, où est-ce que tu as mis ton char? Et le char, on le décompose. Il y a un plateau, il y a un essieu, il y a des roues. Et alors, on dit, est-ce que les roues sont le char? Non. Est-ce que l'essieu sont le char? Non. Est-ce que le plateau est le char? Non. On peut passer en revue tous les éléments. Et la conclusion est que char est un nom, une désignation somme toute conventionnelle qui est donnée à un assemblage d'éléments. Mais il n'y a pas de char qui existe de façon autonome. C'est une désignation conceptuelle. Et toute chose, il en va de même pour toute chose. Et c'est ainsi que l'on dit que toutes les choses sont dépourvues de soi, sont dépourvues d'existence en soi, de soi, par soi, sont dépourvues d'existence indépendante. Et de même qu'il n'y a pas d'ego individuel ou d'ego de la personne existant véritablement d'une façon indépendante. Il y a une impression ou qui vient d'une imputation, mais qui se fait sur le jeu d'éléments interdépendants. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'ego. Et là même, je vous ai présenté de façon assez concise la vision du non-ego, de l'absence d'ego, l'absence de choses existant en soi de façon indépendante. Bon, c'est un petit peu difficile, peut-être si on entend ça la première fois, mais ça mérite d'être considéré. Et en fait, la clé de tout cela est la compréhension de l'interdépendance. Toute chose, tout est interdépendant. Et il n'est rien qui ne soit pas interdépendant. De ce point de vue-là, c'est une vérité ou une réalité qu'on peut dire scientifique. Mais dans notre fonctionnement cognitif et psychologique habituel, nous avons tendance à percevoir en nous et dans les choses des entités indépendantes qui nous font d'ailleurs nous accrocher à ces entités. Et c'est là que se situe l'illusion, qui nous font prendre pour réel des choses qui ne le sont pas. Et l'interdépendance est le cœur de l'intelligence du Dharma. Et est une compréhension qui a beaucoup d'applications et qui est extrêmement profonde. Il n'est pas d'être, il n'est que de l'inter-être. Et c'est pour ça que souvent l'on encourage d'apprendre à conjuguer le verbe inter-être, j'intersuis, tu interais, il interait, nous intersommes, vous interrêtes et ils intersont. Tout intérêt. Merci. S'il vous plaît.
Bonsoir Rinpoche. Ça veut dire que, si je comprends bien, dans ce que vous dites, ça introduit la notion de responsabilité dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on vit. L'interdépendance.
Oui. Tout ce que l'on fait a des conséquences complexes qui... interagissent avec toute chose. Mais la responsabilité est aussi un sujet très important. Et à contrario de ce qui vient d'être dit, on pourrait dire, si tout est interdépendant, donc je suis dans cette interdépendance et je suis... on pourrait dire complètement conditionné par cette interdépendance et par la même déterminé, être dans une sorte de déterminisme, ce qui est totalement faux. Mais c'est une erreur ou une vision erronée qui circule, qui se développe certaines fois. Et nous sommes toujours relativement conditionnés et relativement libres. Nous sommes conditionnés dans notre fonctionnement automatique, dans notre pilote automatique, comme on peut aussi dire, dans notre réactivité, dans le... Et nous sommes conditionnés dans les saisies de notre conscience habituelle, mais nous sommes libres dans l'instant présent. Nous sommes libres dans l'instantanéité première, dans l'instant premier. Et suivant que nous sommes plus ou moins dans l'instantanéité première, de la pleine présence authentique, ou que nous sommes plus dans le pilotage automatique des habitudes mentales, nous sommes plus ou moins conditionnés, plus ou moins libres. Mais nous avons toujours une part de liberté, même si nous avons aussi toujours, habituellement, une part de conditionnement. Bien. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? S'il n'y a rien de particulier présentement, on prend une dernière petite question dans celles qui vous sont arrivées.
Petite.
Allez, une petite.
Peut-être une question qui rebondit sur une réponse que vous avez donnée la dernière fois. Et la question de la dernière fois, c'était comment aimer un parent qui fut très destructeur dans son enfance. Et donc Agnès d'Auvergne voudrait avoir des informations complémentaires parce qu'elle dit qu'elle a eu des parents justement mortifères physiquement et psychologiquement et qu'elle se retrouve toujours dans des situations interpersonnelle où elle revit en fait ce statut d'enfant qui a subi des traumas.
D'enfant traumatisé.
Voilà. Et elle dit, c'est comme si j'étais programmée pour reproduire ce genre de lien. Et donc sa question, c'est comment toucher et guérir vraiment ce noyau archaïque qui pleure.
Voilà. Oui, nous avions discuté l'autre fois comment nous sommes structurés de strates ou de couches successives, un petit peu comme les poupées russes, hein, où il y a des enveloppes successives. Et qui sont autant de strates qui sont venues dans l'éducation, dans la culture, dans nos apprentissages, dans notre vie. Et nous avons au milieu une sorte de noyau archaïque qui remonte le plus loin possible et à la petite enfance. Et si nous avons effectivement des traumatismes archaïques, c'est-à-dire anciens, les plus anciens, nous avons tendance à être conditionnés par ceci, et comme le dit Agnès, être en quelque sorte programmé, et ces engrammes, ces imprégnations, ces samskaras, on dit aussi en sanskrit, qui nous imprègnent, vont amener des perceptions erronées, vont amener à vivre sur les situations qui se présentent à nous, ces schémas qui sont ainsi imprégnés, vont nous amener à les transposer dans ces situations, à les projeter sur ces situations, à les investir dans ces situations. Et c'est comme ça qu'il y a effectivement une forme de conditionnement, de programmation, on peut même dire d'aliénation, ou un mode de fonctionnement névrotique, avec une répétition, compulsion de répétition. Alors comment en sortir ? En faisant un travail psychologique, et ou en pratiquant la méditation. Alors, je dis et ou, la pratique de la méditation et un travail psychologique, un bon travail psychologique et une bonne pratique de la méditation, parce que il y a travail psychologique et travail psychologique, et il y a pratique de la méditation et pratique de la méditation. Mais pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, la démarche soit bien conduite, ce sont deux démarches de déconditionnement, ou deux démarches de libération, justement, par rapport à nos conditionnements, à nos samskaras, à nos imprégnations, alors, samskariques, karmiques, si l'on veut, ou tout simplement par rapport aux empreintes laissées par des traumatismes ou des événements de notre passé. Dans les deux cas, il s'agit d'un travail de libération et la plage de recouvrement entre une pratique libératoire de type psychologique, avec toutes les variantes qu'il peut y avoir, et une pratique libératoire de type méditatif, la plage de recouvrement peut être très grande. La pratique de la méditation bien conduite peut suffire. Si l'on est capable de la bien conduire. Mais si l'on a une névrose extrêmement prégnante. La névrose récupère la pratique pour s'en nourrir. Quelqu'un, c'est finalement contre-productif. Et on devient un méditant névrosé. Où on peut développer une névrose de méditant qui utilise la pratique et même un discours du dharma pour justifier sa névrose. Ça existe. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Dans certains cas, une démarche, dans beaucoup de cas, une démarche psychologique peut être une aide. Il peut aider à comprendre déjà les processus psychologiques, les grandes arcanes de notre fonctionnement psychologique, et peut commencer à nous permettre de voir comment nous fonctionnons, nous rend compte comment justement nous ne percevons pas la réalité des situations, mais comment nous percevons notre version des situations ou ce que nous projetons, surimposons à ces situations en fonction de ce que nous portons en nous. Comment nous percevons nos projections plutôt que la réalité. Comment nous percevons la carte que nous projetons plutôt que la réalité du terrain. Donc, ça peut être utile. Très utile. Une démarche libératoire, psychologique ou méditative, s'inscrit dans une fonction qu'on peut dire catharsique, de libération. C'est bien d'en parler, il n'y a pas de règle générale. Et ce qui est le plus important, c'est que ce soit bien conduit. La pratique de la méditation, elle seule, peut suffire. Une pratique psychologique peut être un aide et un adjuvant ou une façon de dégrossir. La pratique psychologique seule généralement, ou même d'une façon plus que générale, dans cette définition même, s'arrête à un certain niveau. Et s'il y a une plage de recouvrement très forte entre les deux, très grande, la pratique méditative va beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément une démarche psychologique. Mais les deux peuvent être complémentaires. Donc, c'est à voir, et c'est bien de savoir aussi en parler. Les personnes qui sont le plus persuadées de ne pas avoir besoin de faire un travail psychologique sont souvent celle qui en aurait justement le plus besoin. S'il vous plaît. Peut-être que l'on peut s'arrêter. Est-ce que ça se comprend, ceci ? Bien. Petit moment de pleine présence. L'état de pleine présence est justement l'état catharsique par excellence, celui dans lequel, dans la non-intervention et l'absence de volonté ou d'intentionnalité, telle que nous en parlions tout à l'heure, les imprégnations que l'on porte peuvent s'exprimer. Ce qui a été refoulé peut s'exprimer, peut remonter à la conscience, et dans la non-intervention de la pleine présence, ces énergies peuvent se libérer sans suite, se libérer, se décharger et s'épuiser. Petit moment, petite pause. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonne soirée, bonsoir et au revoir.